Chapitre 11. Ce fut le lendemain, de la part de Mélanie, un déluge d'observations sur le nez de Jeanne, sur ses belles qualités, sur sa robe noire. « Oh, monsieur, avais-tu du bonheur de dénicher une petite dame aussi peu affichante et aussi douce ?» Mélanie ne connaissait que des femmes à officiers. Installée dans son quartier au Gros Caillou, s'étonnait devant cette fillette réservée, pas orgueilleuse et pas canaille, ainsi que la plupart des filles qu'elle rencontrait traversant en cheveux sa rue, accompagnée comme d'un domestique par une ordonnance chargée de les brosser et de les occuper en l'absence de supérieurs retenus par leurs devoirs professionnels devant des verres d'absinthe dans des cafés. Landry accepta presque joyeusement les sceaux que la bonne lui versa sur la tête. Toutes ses venettes s'étaient évanouies. Les anicroches n'étaient même plus à redouter. Jeanne prenait place dans le ménage sans qu'un cri se fût élevé ni une dispute. Les embarras que pouvait susciter la concierge demeuraient seuls à éviter, même Mélanie, devant laquelle André laissa échapper quelques craintes, se récria, sentant sa vieille haine s'accroître contre l'homme qui l'empêchait de battre ses tapis et de secouer ses torchons après 10 heures. « Eh bien, faudrait plus que ça, qu'un pipelet fît la loi, monsieur, » dit-elle. Et elle s'engagea, sans qu'il lui fût rien proposé, à protéger la petite, à être muette, et si quelqu'un tentait de lui arracher les vers du nez... Et elle s'offrit enfin à rembarrer les locataires et le portier au premier mot. André calma ce beau zèle, appréhendant d'irréparables bévues. En attendant, une touchante amitié se liait entre les deux femmes. Jeanne, le second jour où elle coucha chez André, fut surprise au lit, tandis qu'elle se réveillait, par Mélanie, qui entrait discrètement sur la pointe de ses longs pieds. Elles se saluèrent et se sourirent gracieusement. « Bonjour, madame, vous allez bien ?»« Mais je vous remercie. »« Je ne savais pas quoi acheter ce matin pour manger, alors j'ai commandé au charcutier des côtelettes à la sauce. Madame les aime-t-elle ?»« Mais certainement, madame, j'aime bien toutes les choses où il y a du vinaigre et des cornichons. » Et reconnaissant de la chaufferette apportée la dernière fois, Jeanne demanda des nouvelles du sergent de ville. Mélanie, très flattée, devint prolixe. Elle s'étendit à perte de vue sur les rhumatismes de son mari, paria de son futur avancement des enfants qu'ils avaient désiré avoir, convint, sans que personne eût mis le fait en doute, qu'elle ou son mari, tous les deux peut-être, étaient stériles. Puis, malgré l'opposition de Jeanne, elle s'empara de ses chaussures, déclarant qu'elle ne consentirait jamais à ce que madame tâchât ses jolis doigts, et elle fit reluire les brodequins d'une telle façon que les bottines d'André, proprement cirées à l'ordinaire, semblaient, en comparaison des savates ternes et souillées. Elle poussa même les raffinements jusqu'à faire chauffer les brodequins près du feu, les talons en l'air. Un peu surpris, malgré tout, de cette soudaine tendresse, André chercha quelles pouvaient bien être les intentions de Mélanie. Il ne tarda pas à les connaître. Un jour que, rentrant chez lui, il trouva les deux femmes assises dans la salle à manger devant une table. Jeanne bâtissait une robe pour la bonne, lui attachant les papiers de son patron comme des affiches le long du dos. Il ne dit rien, pensant toutefois que Jeanne allait être largement grugée. Il commença seulement à se défier de l'intimité des deux femmes, un samedi où Jeanne manifesta le désir d'aller dîner le lendemain dans un restaurant. Il fut très étonné de cette fantaisie, sachant que d'habitude elle n'aimait pas à se promener avec lui, de peur d'être rencontrée par les amis de son autre amant. Il la questionna, et elle finit par avouer que Mélanie souhaitait d'avoir compos. Je me chargeais de la cuisine, Et si tu veux pas te déranger, vit-elle très bas. Et tu sais, Mélanie me l'a demandé comme un service. Il ne voulut pas désobliger Jeanne et irriter la bonne. Il octroya gracieusement le congé et Jeanne, le lendemain, se déclarant un peu souffrante, hasarda qu'il serait plus agréable de manger au coin du feu et proposa d'envoyer Mélanie chercher les provisions. André accepta. Il consentit même à ne pas dîner dans la salle à manger parce qu'elle était plus mignon de s'installer comme autrefois dans la chambre. Et il fut récompensé de son obéissance par la grande joie de Jeanne, qui, le ventre enveloppé d'une serviette, la mine délurée et bien portante, dressait la table, baisait son petit homme sur les joues, lui soufflait dans l'oreille, n'est-ce pas que c'est amusant? Parlait des anciennes portions qu'il faisait, autant jadis, autant il n'avait point de bonnes, montait d'une gargote du voisinage, affirmait, malgré les observations d'André débinant les plats figés et trimballés dans une serviette au travers des rues, qu'elle avait encore mieux mangé comme cela, à la flandre, sans pause, plutôt que de changer tout le temps d'assiette et de dîner en cérémonie au son du timbre. André sourit. Bon petit Minouchon, dit-il, avoue que Mélanie t'effraie encore. Elle nia, toute rouge. Voyons, je ne suis plus un enfant pour avoir peur d'une bonne. Non, je préfère le tête-à-tête à table simplement, parce qu'il est ennuyeux d'avoir constamment quelqu'un derrière le dos. Avec cela, Mélanie arrive toujours quand on voudrait s'embrasser. On n'est pas libre, on ne peut plus causer. Tu sais, tu auras beau dire, on n'est plus chez soi. André jugea prudent de garder le silence. Jeanne, du reste, emporta les plats, débarrassa la table, la repoussa dans un coin et se mit en devoir de moudre le café. André s'offrit à exécuter ce travail facile, et tandis qu'elle apportait les cuillères et les tasses, il tourna maladroitement manivelle entre ses genoux, surpris malgré tout que l'appareil ne broyât pas les grains plus vite. Jeanne haussa les épaules, lui reprit le moulin, et acheva prestement l'ouvrage. Assis l'un à côté de l'autre, les pieds sur le garde-feu, ils causèrent à l'aventure. La conversation languissait, ne touchant qu'à des choses utiles, rasant des sujets indéterminés. Comme ces peluches qui volent au hasard jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent à un endroit, leurs paroles, après avoir d'abord frôlé le sujet des robes, amenée par la jupe de Jeanne qui s'était graissée en desservant, se posèrent sur le magasin où elle travaillait. Alors elle exprima le mépris qu'elle et les autres ouvrières ressentaient pour les filles mannequins qui se promènent sur du parquet luisant dans des robes prêtées. C'étaient des grues, journellement enlevées des salons d'essayage par les riches acheteurs. Pour l'étranger, il n'y a rien de propre en un mot. Quant aux trois catégories d'ouvrières, les jupières, les corsagières et les confectionneuses de manteaux, il n'y avait parmi elles que très peu de bonnes filles, et lancées sur ces campagnes de la confection, elle dit quelles petites rosses étaient les quelques vierges disséminées dans les ateliers, des mijaurées, savantes comme chaussons, escomptant pour l'avenir des appâts déjà fanés et des dessous rances. Elle avoua les aigreurs échangées du matin au soir, les airs dégoûtés et chipies des femmes vivant en concubinage, portant le nom de leurs amants, voulant être traitées de mesdames, longs comme le bras. Affirma cependant qu'on était, malgré les échanges de piques et de gros mots, très polis, les unes envers les autres, car lorsqu'une ouvrière entrait le matin, sans souhaiter le bonjour, tout l'atelier s'écriait: Dites donc, vous avez oublié quelque chose derrière la porte? Et Jeanne riait, prétendant qu'il y en avait d'assez godiches pour retourner sur le palier à la recherche de l'objet perdu. Puis, effleurant les ateliers situés dans les combles au cinquième, des enfilades de mansardes tapissées de papier assis sous le rouleau, des fleurs roses grimpant dans des treillis grises, éclairées par des tabatières réunies par des portes dont les battants manquaient, Jeanne, excitée par André, parla de la Mercière, oh, une pimbèche, qui marque les heures d'arrivée, possède dans de grandes boîtes toutes les nuances de soie, crie lorsqu'on va lui réclamer les fournitures. Comment, vous avez déjà fini? Montrez-moi votre bobine. Une moucharde pucelle et vieille, disant à celles qui ont découché, tiens, une telle, tu as un col sale et c'est jeudi. Tu n'es donc pas rentré, chière, chez toi? Du reste, vrai, tu peux te regarder, tu en as des yeux. Ou bien, jetant des apostrophes de ce genre à celle dont le ventre bombe. Ah, la petite qui s'est étalée sur une pierre pointue. Ou encore, dites donc, la belle, oh, vous avez sans doute mangé des haricots pas cuits. C'est cela qui vous a fait gonfler? Ça t'amuse, reprit Jeanne avec un peu de mélancolie, regardant André qui souriait béatement dans son fauteuil. Eh bien, si l'hiver tu étais enfermé dans des pièces pareilles, pleines de courants d'air, chauffées au coq, éclairées des 2 heures de l'après-midi, par des becs de gaz pendus si bas qu'ils vous brûlent et vous font tomber les cheveux, si tu étouffais l'été au milieu de tout un monde qui se déshabille pour se mettre à l'aise, tire les nénés de son corsage et les soupèses afin de voir qui a les plus hauts et les plus fermes, et si tu avais à supporter aussi 3 ou 4 mois de morte saison, tu verrais qu'il n'y a vraiment pas de quoi rire. Non, il n'y a pas de quoi rire, reprit-elle, d'un ton convaincu, après un silence. André s'excusa de son air radieux, et il le justifia par le spectacle qu'elle avait montré. « C'est égal, je voudrais voir ça, » fit-il, réjoui par cette perspective de corsage, laissant passer à la file, dans un cadre fripé de linge, de blanches poires aux queues couleur de rouille, de chocolat, de framboise ou de mauve. « Il y a même quelquefois du tabac à priser dessus, » riposta Jeanne en riant à son tour. « Car tu sais que nous avons tout un petit cornet d'un sou que nous faisons sécher sous les fers. »« Ah, bien, mais c'est du propre, ça !» s'écria André. « Tu es bon, toi. Il faut bien ça pour nous réveiller, pour nous permettre de tenir jusqu'à 8 heures. »« Oh, alors, personne ne dort plus, je t'assure. On crie dans tous les ateliers. » V'là l'heure! Et la toilette commence. Chacune se lisse les cheveux avec un peu de salive, s'épluche les bouts de fil restés sur la robe, se pomponne les joues avec la houppette, se prépare les cils avec une épingle à cheveux. Et alors, faut voir, ce sont les plus dégingordés qui font le plus leur tata, qui prennent pour descendre les airs les plus innocents et les plus dignes. Parbleu! S'écria André. C'est dans les manteaux comme dans l'art. On peut être certain que ce sont les gens dont la vie privée est la plus abjecte qui écrivent les œuvres les plus sentimentales et les plus bégueules. Enfin, c'est ainsi. Il eut un soupir, puis il demanda quelques renseignements sur la nourriture des ouvrières, apprit sans étonnement que ces jeunes personnes se repaissaient de crudités, d'artichauts à la poivrade, de fromage blanc à la ciboule, de pommes vertes, et en fait de nourriture plus substantielle, de clovis, de moules, de côtelettes, le tout apporté du dehors dans de grands paniers et chauffé dans une pièce spéciale, commune à toutes les séries d'ouvrières, au 6e, sur des fourneaux à gaz dont on se disputait les trous retenus à l'avance, pourtant par des apprentis de chaque atelier. « Eh bien, ah, vous devez en débiter sur les hommes, hasarda André. » Jeanne convint que sans doute on causait les hommes, mais le thème de la conversation reposait surtout sur les rêves qu'on avait eus. Tous les matins, du reste, les ouvrières criaient à leurs amis en arrivant. « Bonjour, ma chérie, tu as bien dormi ?»« Eh oui, ma chère, J'ai rêvé de toutes sortes de choses que je te raconterai là-haut pendant le déjeuner. Oh, tu verras, ma chère. Et en croquant des radis qu'elle se cotisait pour acheter, elle racontait leurs rêves qui étaient expliqués par la grande Amélie, une femme joliment forte là-dessus, possédant comme pas une la clé des songes. Ainsi, quand on embrassait une femme ou qu'on voyait son derrière, c'était un affront qui vous attendait dans la journée. Quand on rêvait d'oiseaux, c'était cancan. De feu, oh, une grande joie, à condition pourtant qu'on ne vît pas les flammes. Puis il y avait encore le chat qui était trahison, l'enfant qui était tourment et un tas d'autres devinettes que Jeanne avouait ne plus connaître. Et tu crois à tout cela? Demanda André. Mais oui, pourquoi pas? Seulement le sourire de Jeanne était si ambigu qu'André ne put savoir au juste si elle était de bonne foi et grave. Nous sommes toutes superstitieuses, conclut-elle souriante. Ainsi, quand nous sortons de table, nous avons constamment les cheveux mouillés, parce que nous renversons du vin sur la table et que nous y trempons vite le doigt et l'essuyons sur la tête pour nous porter bonheur. Et Eugénie, elle croit aussi à tout cela? Mais oui. Oh, du reste, elle est payée pour y croire, car toujours ses songes se sont réalisés. Ainsi, avant de se marier, elle a vu un homme tenant un rabot, et elle a eu pour mari un emballeur. Et le même fait s'est produit pour sa sœur. Elle a vu, étant jeune fille, un homme en redingote, et le premier amant qu'elle a eu a été un homme de plume. Ah bien, tu sais, il faudrait pas dire devant Eugénie que les rêves sont des blagues. Oh, elle t'arrangerait. Oh, je respecte toutes les convictions, même quand elles sont sincères, affirma André. Puis se penchant sur Jeanne, il lui chuchota une question dans le tuyau de l'oreille. Oh, que tu es sale, fit-elle. En voilà des questions. Je me demande quel intérêt tu as à savoir qui sont au sixième, près des pièces où l'on mange, qu'il y a des tronçons de cigarettes, du sang par terre, et puis que c'est plein de bouts de mousseline. Ah, alors, c'est avec de la mousseline? Dit André en riant. Ah, voilà une bonne note à prendre sur les ateliers de confection. Comment une note à prendre? Ah oui, c'est vrai. Tu écrivais dans le temps. Oh, mais ne va pas mettre ce que je te raconte dans tes livres. Parce que tu sais. Mais je suis bête. Tu n'oserais pas écrire des choses semblables. Tu verras, dit simplement André. Jeanne haussa les épaules et reprit. Alors tu travailles dans les journaux? Non, non, voici plus de 3 ans que j'ai renoncé au journalisme. Et il continua, parlant plus à lui-même qu'à la petite. J'en avais assez des directeurs, un tas d'icoglans qui veulent commander et diriger la virilité des autres. J'aurais bien dû, par exemple, avant de rendre mon tablier, démontrer dans un sincère article la parfaite inutilité de la critique. Mais voilà, j'aurais commis aux yeux de mes confrères une hérésie pécuniaire. Ces imbéciles n'auraient même pas compris combien mon idée était humaine. Je débinais le métier qui m'aidait à vivre. Ce que nous sommes en train de faire tous les deux, poursuivit-il en se tournant vers Jeanne. Il se tut, pris de mélancolie et de dégoût. Depuis des mois, il ne travaillait guère. Il traversait une période de découragement et d'abandon, se remâchait les terribles arguments de l'homme de lettres, las de travail et saoulé d'art. À quoi bon? Quelle nécessité! Il faut lire les ouvrages des autres et n'en pas écrire. Puis l'on se laissait aller dans cette déroute. Le roman commencé apparaissait dans une perspective lointaine et magnifique. Il disait « Ah, tout de même !» Puis, comprenant que le livre exécuté à grand-peine serait forcément inférieur à celui qu'il avait rêvé, il retombait dans ses premières tristesses, se répétant comme excuse, Bon, aujourd'hui je ne suis pas en veine, nous verrons plus tard. Et c'est aujourd'hui, c'était demain, c'était après-demain, c'était des semaines et c'était des mois à force d'attendre. Il avait perdu le profil de la mise en train qu'il avait acquise une fois installé dans son ménage. Et puis, il s'était marié. Il fréquentait déjà peu le monde. Ce mariage avait forcé à rompre toute relation avec les gens qui auraient pu lui donner un coup d'épaule et lui venir en aide. La peur que son cocuage ne fût sur-dessus de tout le monde, la honte d'expliquer par un mensonge qui amènerait des sourires sur les lèvres des autres la séparation effectuée entre sa femme et lui, le retenait encore. Il avait abandonné le bénéfice des labeurs accomplis au temps où il tâchait dans les maisons de passe de la presse. Il était caserné dans un trou oublié. Il s'était fermé par son abstention toutes les portes. Il ignorait aujourd'hui les signaux d'entrée, les mots d'ordre. La difficulté de mettre la main sur un éditeur, difficulté qui, bien que ses premiers livres se fussent mal vendus, était presque éloigné à un moment, s'il avait persisté à demeurer sur la brèche, s'imposait comme à ses débuts. À sa paresse instinctive se joignait maintenant l'inanité de nouvelles recherches, la fatigue de nouveaux efforts. C'est drôle, reprit Jeanne, qui devant la mine assombrie d'André changea de conversation. Dans le temps, tu avais des masses d'amis qui venaient te voir. Et Mélanie m'a assuré que tu ne fréquentais aujourd'hui personne. Est-ce que tu es fâché avec un petit? Tu sais bien, je ne me rappelle plus son nom, un petit qui portait toujours un binocle et des cravates de Lavallière à poids. Ah, Eugène, non, il s'est marié, dame. Le mariage, ça rompt bien les relations. Oui. Et toi, tu n'as jamais eu envie de te marier? Non. C'est drôle quand on aime tant son intérieur qu'on ne finisse pas comme les autres par là. André, qui était devenu très inquiet, respira. Jeanne ignorait certainement qu'il fût marié. Mélanie avait gardé le silence, tenant compte par extraordinaire des ordres qu'elle avait reçus. Alors, tu ne me croyais plus garçon? Dit-il à Jeanne. Non, je me figurais plutôt que tu étais mort. Il ne répondit pas, songeant que lui aussi avait cru au décès de Jeanne. Mais voyons, reprit-elle, cherchant dans sa tête, tu avais autrefois pour un ami un grand maigre avec de la barbe. Ah, Cyprien! Eh bien, celui-là, tu ne le vois plus? Oh, mais si, nous sommes toujours camarades. Et tout en ajoutant, nous nous voyons très souvent même. Il réfléchit que le peintre s'était abstenu de visites et de lettres depuis le retour de Jeanne. Ah, il faudra que je passe chez lui, se dit-il. Mais quand tu seras là à bâiller aux corneilles, fit la petite, un peu débitée de voir André voguer dans ses rêves, loin d'elle, qu'est-ce que tu as? Tu es tout chaud ce soir. Le fait est que ce soir-là, André remuait un tas de cendres. Il retrouvait des bouts de tison sommeillant dessous, des souvenirs qui pétillaient de toutes parts, et la tête maintenant appuyée sur l'épaule de Jeanne, pour avoir au moins l'air de s'occuper d'elle, il songeait, les yeux perdus. C'est dommage que tu ne sois plus dans les romans, soupira-t-elle. Tu m'aurais eu des billets de théâtre? Cette phrase le lança sur une nouvelle piste. Ah, combien de fois Berthe, sa femme, lui avait-elle formulé cette demande? Tout un rappel de tenaces exigences lui arriva. Il embrassa Jeanne, heureux de se presser contre elle. Tout un parallèle s'établissait maintenant dans son esprit entre les deux femmes. Berthe, plus jolie, avec son visage régulier, sous ses cheveux châtains, ses yeux noirs profonds, Ah, sa surdente amusante dans une bouche bien rose. Jeanne, les traits plus bafouillés, le nez bravache, bougeante et retroussée, les yeux jaseurs, ardents et doux, les cheveux éparpillés en pluie fine et blonde sur la pointe du front. Elle avait une bonne flanquette pour drôle, une tournure plus provocante et surtout une douceur de caractère, une crainte de gêner, une discrétion savoureuse pour un homme qui avait supporté le rêche despotisme d'une épouse, jugeant tout, tranchant tout, imposant ses idées, ses préférences, une bourgeoise convaincue qui, le jour où elle prit possession de son logement de mariée, lâcha cette déclaration qu'André avait encore sur le cœur. Oh, il faudra enlever ces gravures-là. On ne met pas de gravures dans un salon. Et il avait dû accepter les turpitudes choisies par elle et reléguer dans le vestibule ses belles estampes. Ses souvenirs lui firent lever le nez sur ces mêmes gravures qui tapissaient maintenant les murailles de son petit salon. Vilain maniaque, va, dit Jeanne, qui épiait ses mouvements des yeux. Te voilà encore à regarder tes vieux bibelots. Tiens, ce cadre-là est de travers, poursuivit-elle en riant, connaissant l'habitude d'André de redresser les tableaux que Mélanie dérangeait sans cesse, ayant comme personne le sens de l'endroit dans l'œil. Il se leva, remit le cadre en place, heureux d'amuser Jeanne, puis il se rassit et se replongea dans ses méditations. Il se répéta, une fois de plus, que joyeuse et câline, elle était encore obligeante et charitable, car il en avait eu des preuves un soir que, malade, battu par la migraine, lui posa doucement des compresses sur le front, l'embrassant comme un enfant que l'on console, lui disant dans un baiser: Eh bien, et ta tête, ça va mieux, chérie? Elle avait eu ce soir-là une façon charmante de calmer sa maladie. André, qui restait d'ordinaire en proie aux soins de sa bonne, trouvait bien chez elle une servante correctement dévouée jusqu'aux heures de ses départs, mais il souffrait atrocement. Alors que, ne pouvant supporter la lumière et le bruit, Mélanie apportait brusquement une lampe, fichait une tasse par terre, l'assaillait d'offres inutiles, le bourrait à contresens de tisane, le harcelait jusqu'à ce qu'il eût avalé d'indigeste soupe. Quant à Berthe, elle remplissait dans ces cas honnêtement son devoir. Elle envoyait la bonne s'enquérir de temps à autre si monsieur n'avait besoin de rien, la sonnait afin qu'elle préparât et portât à André un verre d'eau sucrée à la fleur d'orange. Puis, à l'heure habituelle, elle se déshabillait sur la pointe des pieds, usant, à défaut de caresses, de précautions, murmurant une fois couchée des Oh, comme tu as chaud, tu dois avoir la fièvre, tournant le dos et baissant la lampe. Cette question du lit amenait André à des rapprochements plus intimes encore entre Berthe et Jeanne. Celle-ci triomphait avec ses jolis simagrées, ses frissons et ses remous de corps, sa tête promptement abasourdie et ses mots hachés. L'autre était froide, rigide, acceptant sans bonne grâce, repoussant les mains, se garant des lèvres, ne fermentant pas. Tiens, tu as encore la meilleure de toutes, dit-il subitement. Mais Jeanne Boudard, lui reprochant de songer à ses anciennes maîtresses. Il la cajola, étonné lui-même de la phrase qu'il avait prononcée tout haut, et il se soumit pour la contenter à une opération qu'il retardait depuis des mois. Jeanne le priait instamment de se laisser enlever deux vers qui s'étaient logés, paraît-il, sous la peau du front. Alors elle les serra entre ses ongles acérés, de telle sorte qu'il se prit à hurler, mais elle le menaça d'employer une pointe d'aiguille s'il ne se taisait point. Puis elle le baisa tendrement. Tu es plus beau maintenant, dit-elle, tiens, regarde-toi. Et il dut se lever pour se mirer dans une glace. Il ne se jugea ni plus ni mal, ni mieux. Il déclara, cependant, que, oui, sa tête s'était heureusement modifiée depuis l'extraction des matières sébacées qu'elle avait subies. Et des soirées continuèrent, pareilles à celles-là, faisant peu à peu sortir tout l'enfantillage contenu dans la femme et dans l'homme. Après le dîner, on buvait une larme de bénédictine ou de prunelle, parfois même André allait chercher des marrons et du macadam, et tout en grignotant et en buvant, ils échangeaient ces banales effusions, ces commodes courtoisies nécessaires à l'entretien de l'affection et au repos de l'intelligence. D'autres fois, quand Jeanne était venue de bonne heure, dans la matinée, André lui proposait d'aller prendre un peu l'air après le dîner, et par le froid sec, par ces temps où la lune lui s'entache dans un ciel bleu dur, il filait à grands pas dans la rue Saint-Honoré. Jeanne, tout envolée dans son manteau de fourrure étroitement fermé, et il s'engageait bras dessous, sous les arcades du Palais Royal, stationnait une minute devant les montres des orfèvres, et chassé par le vent, transi, il se réfugiait dans une brasserie allemande située dans ces parages. Là, enfoncé dans un divan, devant une table, il demandait par gourmandise de la choucroute, du jambon cru de Westphalie, des saucisses au réfort et du pain noir. Et l'appétit s'éveillait aux odeurs acidulées qui fumaient dans l'assiette, et la soif, aiguisée par le sel du pain et l'âcre sucre des baies de la genièvre qu'il croquait dans la choucroute, les faisait lamper à pleine chope le Salvator de Munich, une bière magnifique couleur d'acajou, huileuse et douce. Alors Jeanne s'arrêtait de manger pour rire, voyant la moustache d'André pleine d'une mousse blanche semblable à de la crème. Engourdi par cette chaude atmosphère, aveuglé par ce passage ininterrompu de Bock, il se sentait les fantaisies d'ivrogne de goûter à toutes ces bouteilles rangées en bataille sur un rayon, dit après l'éclair par des jets de gaz. « Il fait bon ici !» soupirait Jeanne, en soufflant et tendant son assiette. André répondait « oui ». Et tous deux ne parlaient plus, les yeux recueillis devant un buffet rempli de jambon fumé, dorés et gras, les uns suintant des gouttes de gelée pâle sur un plat, les autres montrant de sanglantes entailles, laissant voir l'os sous leur chair découpée. Bien qu'ils eussent immamplement dîné, ils éprouvaient maintenant presque du mépris pour les nourritures éphémères et fines de Mélanie. La salive leur montait aux lèvres, une vorace fringale les prenait devant ce buffet encombré de larges et solides viandes, flanquées et appuyées encore par des barils de harengs roulés, des corbeilles de pain au fenouil, des craquelins et des bretzels, des saladiers du marinet, des vinaigrettes de museau de bœuf, des cloches sous lesquelles se liquéfiaient les hauts Münster et les Limbourg. Et tous deux, l'estomac languissant et chargé, s'attardaient sur leur banquette jusqu'à l'heure de la fermeture. Jeanne, un peu étourdi par la fumée du tabac et par la bière, André rêvant, les yeux ouverts, aux puissantes bitures de l'Alsace, regardant défiler devant lui en songe des gilets rouges et des tricornes, des nez en fleurs et des ventres ronds, toute une séquelle de pochards rigolos tournant et buvant autour de l'énorme panse du Cambrinus de terre cuite qui se dressait sur un comptoir dans la brasserie, victorieuse et gorgée à cheval sur un foudre et le verre en l'air.